crois qu'on peut tous s'installer et qu'on va commencer parce que on attend encore, on doit encore peut-être penser peut-être que quelques personnes arrivent, mais enfin, il est sur un quart, il va être temps. Donc, peut-être vous avez déjà tous serré la main à M. Kosmicki, enfin je vous le présente en quelques mots. Il est enseignant conférencier en musicologie, c'est ça, comme ça qu'il se décrit. De 1998 à 2004, il était chargé de cours à l'université d'Aix-en-Provence, dans le département d'informatique et musique. Hein. C'est ça,
en musicologie et en informatique, oui. Voilà, dans les deux aspects, voilà, dans les deux domaines.
Donc, il a enseigné la musique assistée par ordinateur au conservatoire Darius Milhaud, d'Aix-en-Provence toujours. Il est spécialiste en musique du XXe siècle, mais enfin, il est très compétent dans toutes les musiques parce que je le connais depuis 4 ou 5 ans maintenant et il nous a fait un programme à Vannes de la musique depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle et j'ai donc eu à peu près toute cette longueur de programme déjà depuis avec M. Kosmicki. Donc comment vous dire que bon, il participe régulièrement donc à des conférences un peu partout dans les centre d'art, médiathèque, et ainsi de suite. Quand même. Je dois vous signaler aussi qu'il a édité un livre sur les musiques électroniques, c'est ça ?
Exactement.
Au mois de mai. Vous n'avez pas un exemplaire ?
J'ai pas pris malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en faire.
On aurait pu avoir un œil.
Ouais.
Bon, alors. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la 9e symphonie de Beethoven, que tout le monde connaît, mais enfin, est-ce qu'on la connaît bien ? C'est peut-être ça aussi qu'on va découvrir. Hein. Et donc, sachant que nous intéressons surtout à Wagner, mais aussi à tous les autres écrivains, à tous les autres compositeurs qui ont eu une influence sur Wagner et qui ont influencé Wagner. Monsieur Kosmicki nous propose donc une analyse et une écoute commentée de la 9e symphonie, dont la forme dépasse de loin les cadres de la symphonie classique. L'orchestre jouant un rôle de narration, surtout.
Tout à fait.
Cette œuvre monumentale, admirée par Wagner, annonce l'utilisation que ce dernier fait de l'orchestre dans ses drames musicaux. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur Kosmicki.
Merci.
Voilà. Oui. Oui, juste une petite chose.
Je vous en prie, excusez-moi. Aucun problème.
Il y a 3 semaines ou un mois, par là, oui, on a assisté à la présentation de la thèse, à la soutenance de thèse de Philippe Godefroy devant l'université de
Poitiers.
Avec Jean-Pierre, oui, on était 3. Bon, il a été heureux de nous voir là-bas parce qu'en définitive, il n'y a personne.
Il n'y a pas beaucoup de monde. Quelques étudiants.
Le titre est long.
Le titre est, oui.
Quel album voulons-nous, ouais. Ou désirons-nous, ouais.
Là, j'ai plus le titre en exact.
Oui,
c'est toi qui as le.
Quel album désirons-nous, ouais. Également, il parlait du crépuscule, l'opéra de la fin du monde.
L'opéra de la fin du monde,
oui.
Quel album, ouais, désirons-nous,
voilà.
Mais on pourra une prochaine fois, peut-être.
Oui.
Mettre
la thèse. C'est un
pavé. Il a obtenu une mention très honorable.
Ouais.
Ah bon, mais c'était une thèse un peu hors norme et hors.
Oui, en fait, ça tenait beaucoup surtout sur la mise en scène et les problèmes de mise en scène de Wagner depuis l'origine jusqu'à nos jours.
Mais c'était
passionnant. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur.
Merci. Donc, merci de m'accueillir pour une rencontre dans ce cercle-là. Merci de l'invitation et puis merci aussi pour le lieu. Là, c'est très chouette d'être accueilli dans un lieu aussi prestigieux. C'est pas souvent que j'aille. Ça, mais bon. Je vous parle effectivement de la 9e symphonie de Beethoven, qui est sa dernière symphonie. Vous le savez, ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous savons en commun, que nous allons partager. Vous allez retrouver beaucoup de choses que vous avez déjà entendues. On va observer cette symphonie effectivement à la lumière du fait que Wagner l'appréciait par-dessus tout, l'appréciait au point de l'autoriser, hein, à Bayreuth, de la laisser jouer à Bayreuth en dehors de ses propres œuvres. Et il l'a nommée d'ailleurs la dernière des symphonies. La dernière symphonie, aussi bien la dernière de Beethoven, ça c'est sûr, mais la dernière symphonie parce qu'elle a atteint un stade ultime de la symphonie, stade ultime qui l'a fait se rejoindre hein, très clairement avec la réflexion qu'il a eue lui-même sur la construction symphonique de son orchestre dans le cadre de l'opéra. Hein, on peut parler de l'opéra de Wagner, même si c'est pas là-dessus, je vais m'attarder bien entendu, mais comme d'un opéra symphonique. D'un opéra, évidemment, vous le savez fort bien, je ne vais pas vous l'apprendre, où la musique, l'orchestre, a au moins autant de choses à dire, au moins autant de rôles dans la narration que la parole prise en place, prise en charge par le chant, hein, bien entendu. Donc ça, vous le savez. Et Wagner a considéré, et d'ailleurs à juste raison, on va le voir hein, sur cet examen de la 9e de Beethoven, qu'effectivement, là, tout en s'inscrivant effectivement, comme le disait M. Kobigo, dans un cadre classique, Beethoven n'a jamais quitté ce moule classique de la Vienne classique à laquelle il appartient pleinement, tout en se plaçant très strictement hein, dans ce cadre rationnel extrêmement bien précisé par ses deux prédécesseurs, si on peut dire, Haydn et Mozart. Cette fameuse symphonie a quatre mouvements avec un ordre strict des mouvements, avec des formes précises à l'intérieur de ces symphonies. Tout en conservant cela, il dépasse, il déborde très largement ce cadre et rend l'orchestre profondément narrateur d'un autre aspect, d'un autre discours hein, que le discours qui est véhiculé par la forme classique, qu'on va rappeler, qu'on va revoir un petit peu. Et aussi, bien entendu, ça aussi tout le monde le sait, cette symphonie intègre, et c'est donc une première, un chœur et quatre solistes, baryton, ténor, alto, soprano, dans son dernier mouvement. Donc évidemment, la jonction est d'autant plus forte avec la vision qu'a Wagner de l'opéra. Alors, cette symphonie, pour la présenter un petit peu avant de rentrer directement dans le cadre, cette symphonie elle a été composée longuement d'ailleurs hein, par Beethoven. Ça a été un long travail, il a mûri cette chose très 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 longuement. Elle a été écrite précisément à un moment où il a vraiment commencé à poser ses idées clairement sur le papier jusqu'à la fin, entre fin 1822 et février, donc début 1824 hein. Il l'a joué la première fois le 7 mai à Vienne hein, le 7 mai 1824. On sait qu'à cette époque, enfin ça c'est les anecdotes qui sont très connues, il était vraiment devenu totalement sourd et il n'a pas du tout senti la joie qu'a déclenché la première audition de cette symphonie, hein, qui a été un tonnerre d'applaudissements et on a dû lui demander de se tourner, de voir ce public comme ça. Donc l'anecdote est connue, mais c'est vrai que la première a eu un grand succès. Après ça a mis plus de temps hein, à être apprécié, ça a mis beaucoup plus de temps. Beaucoup de compositeurs, même des compositeurs romantiques qui ont suivi, n'aimaient pas forcément tout, aimaient les trois premiers mouvements, mais pas les mouvements avec cœur. Certains l'ont jugé grotesque, d'autres sublime. Enfin, c'était toujours un sujet de débat. En tout cas, elle a largement fait parler, largement fait débattre, et ça prouve aussi son importance et son poids sur le 19e siècle et sur le romantisme. Hein, florissant qui a suivi surtout à partir des années 30 après le décès de Beethoven. Elle a été, bon, pour la petite histoire encore une fois, ses premiers succès après c'est 1825 à Leipzig, mais elle a été dédicacée tardivement en 1826 hein, lors de sa publication à Frédéric Guillaume III donc de Prusse, qui n'en a pas donné de grandes récompenses à Beethoven. Beethoven était assez furieux de ne pas avoir eu selon lui, là, les récompenses qu'il estimait nécessaires. Il n'a pas gagné énormément d'argent avec. Enfin, c'est comme ça encore qu'il composait, évidemment, pour en tirer quelques récompenses, surtout d'ailleurs encore du point de vue de la noblesse, parce que Beethoven était encore un de ses derniers compositeurs, même s'il était très indépendant et très rebelle, à demander hein, beaucoup à l'aristocratie, à avoir des soutiens dans l'aristocratie, pas à être comme son contemporain et voisin, hein, exact, Schubert, Franz Schubert qui est viennois aussi, complètement dans un autre monde, hein, le monde vraiment de la bourgeoisie, des cercles bourgeois, et vraiment dans une autre sphère. Lui, il a encore été dans cette sphère de l'aristocratie, mais avec cet esprit de rébellion, avec cette grande différence quand même qui marquait et qui le fait avoir un pied déjà dans le romantisme. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi de cette symphonie dans les généralités? C'est une symphonie évidemment aux proportions gigantesques. Son final, gigantesque évidemment, et aussi long que sa 8e symphonie. Donc vous voyez, on a des proportions incroyables. Et sur la lenteur de cette composition, de cette maturation de la symphonie, il a composé sa première à sa 8e symphonie, c'est-à-dire ses 8 premières symphonies entre 1800 et 1812, en 12 années assez chargées hein, dans le travail hein, compositionnel. Et entre 1812 donc, et 1824, l'achèvement de la 9e symphonie, il se passe donc 12 années. Hein, vous voyez, 12 années d'un vide. Évidemment, c'est la crise de Beethoven, c'est le passage important. Donc, une crise à plusieurs niveaux. La crise au niveau des idées révolutionnaires qui ont été trahies par Napoléon, donc qui s'est fait sacré empereur. La crise au niveau de sa surdité, de sa maladie naissante. La crise au niveau, on ne va pas rentrer dans les détails du tout de sa biographie, mais ça peut avoir aussi une importance de signaler qu'il a ce problème de son neveu Karl, qu'il a voulu adopter au décès de son père. Il a beaucoup de problèmes dans l'éducation, beaucoup de soucis matériels à gérer. Donc, c'est un moment assez difficile pour lui. Et ça fait partie effectivement de cette dernière période beethovenienne, cette période de la maturité, cette période d'un nouveau Beethoven, d'un Beethoven qui dépasse et de loin le style classique dans lequel il s'inscrit ou il feint de s'inscrire encore. Ce qu'on va voir à propos de cette symphonie. Dernière chose aussi dans ses généralités, mais aussi tout le monde le sait, c'est une symphonie qui a été composée autour d'un texte, surtout des idées véhiculées par un texte, qui est celui de Friedrich von Schiller. Schiller qui vit entre 1759 et 1805. Et ce Schiller, donc, qui est déjà mort depuis un peu moins d'une vingtaine d'années, hein, au moment où la symphonie se fait. Ce texte, c'est l'Ode à la joie, qui a été écrit en 1785, donc dans cette période pré-révolution française, en plein dans cette période encore des Lumières, où les idées politique, les idéaux de la bourgeoisie, les idéaux aussi qu'on trouve dans la franc-maçonnerie, même si Schiller n'était pas franc-maçon, même si pour Beethoven, on se pose encore la question, mais a priori, il ne l'était pas. En tout cas, ces idées sont celles aussi défendues par les francs-maçons, des idées autour de la puissance de l'art, de la beauté de l'art, de la liberté des hommes, de la fraternité des hommes, enfin toutes ces idées aussi qui vont animer la Révolution française, qui vont animer la Déclaration d'indépendance aux États-Unis, enfin qui vont animer toute cette période du XVIIIe siècle. Beethoven utilise ce texte, qu'il réécrit d'ailleurs, qu'il débarrasse de tout un ensemble d'idées politiques, de tout un ensemble d'idées religieuses, même s'il conserve largement quand même un aspect très religieux, très spirituel par certains aspects. Il conserve ce texte et il a, dès 1792, c'est-à-dire loin en arrière, hein, quelques 30 années en arrière, dès 1792, l'idée, il est tout jeune, il est à 22 ans, il est né en 1770, il est tout jeune, il a 22 ans, il a cette idée, alors qu'il est encore en Allemagne, à Bonn, il a cette idée de mettre ce texte en musique. Et ça va l'animer, on peut le dire vraiment, toute sa vie. C'est une très lente maturation, c'est quelque chose qui le revient très, très fréquemment dans ses projets, dans ses lettres, dans ses conversations. Il a dans l'idée de faire cette symphonie. Et d'ailleurs, dès la fin de la 8e, dès 1812, hein, donc 12 ans avant de la réaliser réellement, dès 1812, il a, semble-t-il, effectué des premières esquisses. Il a, semble-t-il, déjà parlé d'une symphonie avec cœur à son éditeur, à Breitkopf, pour la petite histoire. Et c'est quelque chose vraiment qui l'anime profondément. C'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup comme ça, c'est vraiment une très longue maturation. Ça, c'est important de le constater. Cette très longue maturation, on va le voir aussi, fait écho, ou l'un fait écho à l'autre, hein, à la longue, très longue présentation du fameux dernier thème qui anime ce texte hein, de Schiller, le fameux thème de l'Ode à la joie, le thème musical cette fois-ci, qui met un très long moment à se mettre en place et à se présenter à nous dans la symphonie. On a l'impression qu'évidemment, le temps qu'il a passé hein, à vivre cette mise en place progressive de la symphonie en lui et le temps qu'il passe à nous présenter avec de nombreux effets qu'on va décrire et analyser, ce fameux thème, qui est le thème d'une vie quasiment, qui a vraiment le statut d'un hymne au moment où on le découvre et au moment où on le parcourt tout au long du dernier mouvement, eh bien, c'est en écho, c'est en miroir, complètement. Ça, on peut vraiment se le dire. Alors, cette musique, évidemment, a profondément marqué tout le 19e siècle. Berlioz, Liszt, Bruckner, Brahms aussi, hein, l'ennemi de Wagner, pourtant Brahms aussi a été fasciné par cette 9e symphonie. Brahms d'ailleurs l'a comprise et l'a analysée comme une musique pure, alors que Wagner l'analyse comme une musique narrative. Vous voyez la différence entre les deux, ça a été une grosse, un gros conflit qui a animé le 19e siècle, évidemment, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, entre Hans Lick et Wagner, principalement, hein, dans les deux aspects, l'un défendant la musique comme non capable d'exprimer autre chose qu'elle-même, hein, une forme pure, une forme en mouvement, et qui se suffit à elle-même, d'ailleurs, à exprimer ce qu'elle est, et quelque part, il a ses raisons, et une autre conception qui veut que la musique puisse exprimer autre chose qu'elle-même, un argument extra-musical, un texte, une idée, et façonner cet argument dans sa construction. On peut comprendre la 9e des deux manières. Moi, je vais vous la faire comprendre, enfin, essayer de l'analyser avec vous, sur sa trame narrative, hein, sur cette idée qu'elle a à présenter à la fin, et vraiment à la manière d'un hymne, ce fameux texte de Schiller, réécrit, revu par Beethoven, mais en tout cas, elle a à le présenter. Et tous les mouvements qui précèdent ce 4e mouvement entrent dans cette présentation et dans cette mise en spectacle de ce texte, cette mise en hymne. Voilà. Alors, il faut aussi préciser, ça aussi ça peut faire écho à ce que fera Wagner avec l'orchestre symphonique, évidemment, donc cette symphonie, au-delà d'être enrichie des solistes et des chœurs, hein, ce qui est déjà très nouveau, très remarquable, hein, dans une conception d'une symphonie, on retrouvera chez Berlioz peu de temps après, hein, au travers de plusieurs exemples, l'orchestre symphonique constitué par Beethoven est un orchestre très enrichi par rapport à un orchestre classique qui est celui d'ailleurs qui lui a servi à composer ses premières symphonies, l'orchestre qu'utilisait aussi sensiblement identique Haydn ou Mozart. On a un noyau de cordes, ça c'est évident, et puis on a des vents par paire autour de ces cordes, de flûte, de clarinette, de hautbois, de basson éventuellement, de trompettes pour des passages glorieux, et puis on peut rajouter une paire de timbales. Voilà, c'est un orchestre qui se limite à ça. Chez Beethoven, on rajoute le piccolo dans cette symphonie, cette 9e, le piccolo, donc la version très 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 aiguë de la flûte. Il rajoute aussi donc à ces deux hautbois, ces deux flûtes, à ces deux clarinettes, il rajoute deux bassons, mais aussi un contrebasson, hein, donc il enrichit le timbre des vents. Quatre corps, parfois on en rajoutait deux, là il y en a quatre, évidemment. Deux timbales, toujours, mais aussi trois trombones, deux trompettes, pardon, trois trombones. Trois trombones, ça aussi c'est assez énorme, hein, dans l'enrichissement de l'orchestre. Et les fameuses deux timbales, mais qui sont accompagnées aussi d'un triangle, d'une grosse caisse et de cymbales. Donc un orchestre très riche, hein, très complet, qui présage, hein, ou qui correspond parfaitement à cet enrichissement de l'orchestre qui sera l'enrichissement de l'orchestre romantique, hein, du 19e siècle, et qui va ne cesser de se compléter, hein, tout au cours du siècle. Je le disais, la structure est classique. C'est-à-dire qu'on entre dans un moule classique à quatre mouvements. Il n'y a pas vraiment de changement à ce niveau-là. Normalement, dans la symphonie classique, on peut prendre l'ensemble des 110 symphonies de Haydn pour constater cela, l'ensemble des symphonies de Mozart aussi, on a quatre mouvements, parfois trois, dans lesquels on a un premier mouvement qui est vif et qui est de forme sonate. Cette forme sonate, hein, je vais vous la redonner, on va la travailler ensemble, mais simplement je vous l'indique, hein, pour l'instant, avant de vous montrer comment ça fonctionne. On parle de forme sonate parce que c'est une forme, on lui a donné son nom au cours du 19e siècle en examinant surtout les sonates pour piano du 18e siècle. Donc le nom de sonate vient du genre sonate, mais c'est bien une forme, c'est-à-dire une structure. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe dans le classique. Normalement on a un deuxième mouvement qui est lent, lyrique, chantant, hein, très charmeur, hein, dans l'idée, très tendre, et de forme qu'on appelle lead. Parce qu'on le constate aussi dans les leaders, généralement, qui sont strophiques ou de forme lead, c'est-à-dire une forme lead, là je peux vous dire en quelques mots, c'est AB, A', éventuellement B', A seconde, etc. On va voir ça, c'est-à-dire deux parties qui se répondent, hein, continuellement au cours du déroulement de cette forme. Le troisième mouvement, c'est un mouvement qui est hérité d'une période où la plupart des musiciens étaient au service d'un mécène qui très fréquemment avait besoin de ces musiciens pour de la musique de divertissement, pour de la musique de danse, pour de la musique pour animer le théâtre ou les bals ou autre. On a conservé de cette époque-là, on a intégré à la symphonie, généralement, quand c'est présent, soit toujours présent, un menuet. Un menuet, hein, de style assez solennel, mais chantant quand même. Et ce menuet, généralement, se présente, et ce sera presque le cas chez Beethoven. Je dis presque, parce qu'il y a quand même des beaux changements, je peux vous signaler. Un menuet, un trio et un menuet, c'est-à-dire deux menuets, deux danses qui s'intercalent. À l'origine hein, de cet orchestre sortaient trois musiciens, d'où le nom de trio, et ces trois musiciens jouaient une deuxième danse, puis le menuet était repris par l'ensemble de l'orchestre. Or, quand on a un orchestre symphonique avec un peu plus que 20, 30, 40 musiciens, c'est quand même beaucoup trop déséquilibré de faire sortir trois musiciens, donc on avait abandonné cette idée du trio, et on ne fait pas sortir trois musiciens, on fait simplement quelque chose de plus intime, hein, de plus, voilà, de plus recueilli. Donc voilà, le mot trio est resté, mais on a gardé ça. Et puis, quatrième mouvement, donc le final, évidemment, presto, vif, hein, très vif, qui doit être glorieux, qui doit être généralement très enthousiaste, hein, qui doit terminer l'œuvre comme ça dans un élan spectaculaire. Hein, c'était comme ça que l'utilisait Haydn, Mozart, que l'utilisaient même les Carl Philipp Emanuel Bach, les Johann Christian Bach, enfin tous ces hommes du XVIIIe siècle, tous ces compositeurs du XVIIIe siècle, ou en France aussi. Généralement, ce final se trouve très fréquemment avec une forme refrain qu'on appelle la forme rondeau. Alors là, Beethoven va en sortir assez largement, ou une forme thème et variation. Alors Beethoven l'utilise plus ou moins, mais vraiment plus ou moins. Voilà. Ça, c'est le modèle typique classique, le moule classique dans lequel s'est inscrit d'ailleurs toute sa vie Beethoven, jusqu'à la dernière, jusqu'à la neuvième. Mais on va voir les changements qu'il a malgré tout, surtout en fait, mené au travers de ce moule classique. La première chose qu'il a largement modifié, c'est pas la première fois qu'il le fait. Haydn l'avait fait aussi. On va dire que c'est pas totalement révolutionnaire, si ce n'est que c'est utilisé véritablement dans un sens narratif. C'est qu'il inverse le troisième et le deuxième mouvement. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il va, c'est pas vraiment un menuet, hein, mais je vais vous expliquer ça un peu en détail, commencer effectivement par un mouvement vif, qui est plus ou moins de forme sonate. On va expliquer ce que c'est. Il va, au lieu de tout de suite baisser sur quelque chose de lent, de tendre, comme on le fait habituellement, il va passer au menuet. Beethoven, depuis quelques années déjà, depuis le début du XIXe siècle, depuis sa troisième symphonie, la symphonie héroïque, il avait remplacé ce fameux menuet, plutôt galant, hein, plutôt chantant, avec un petit aspect solennel, mais pas forcément très agressif ou vif, hein, ou secouant, je dirais. Il a remplacé ce menuet par un scherzo. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fait déjà depuis quelques temps. Et chez lui, on n'aura pas de menuet, la plupart du temps, on aura un scherzo, qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus avec des rythmes beaucoup plus agressifs, beaucoup plus marquants, hein, bien sûr. Et donc, à la place du deuxième mouvement lent et lyrique, il place ce scherzo. Ensuite, en troisième mouvement, il arrive sur ce fameux mouvement lent et lyrique, et finit sur un final toujours très vif, hein, toujours très enlevé, est très spectaculaire. Évidemment, ce final, ce sera le plus grand mouvement, le plus long mouvement de sa symphonie. Ça déséquilibre, ça change, ça déséquilibre pas, mais ça change totalement l'équilibre de l'œuvre. Alors que sur une symphonie classique, on a quelque chose de vif, bien construit, sur lequel on se pose, et ensuite on baisse largement l'intensité, on va sur quelque chose de tendre, et petit à petit on augmente jusqu'à un final optimiste, hein, et rapide. Ici, on a un mouvement vif. Un mouvement tout aussi vif, voire peut-être même encore plus attaquant, hein, dans l'idée, hein, puisque c'est un scherzo, c'est plus agressif. Et là seulement, on baisse. On revient sur un domaine plus tendre, plus lyrique, avant de faire le grand pas. Évidemment, vous savez que c'est un grand pas, d'autant plus que c'est là qu'intervient le cœur et la voix. Donc évidemment, en déséquilibrant, en changeant cet ordre de mouvement pour cette symphonie en particulier, il l'a fait dans d'autres cas, mais il a évidemment souhaité changer un peu le centre d'équilibre et changer aussi la manière dont les choses allaient être amenées. On va le voir aussi dans ces deux premiers mouvements, donc le vif puis le scherzo. Il ne lui donne pas le nom de scherzo, mais c'est un scherzo, hein, c'est quelque chose qui est toujours un rythme de danse, un rythme sicilien, un rythme très insistant.
en changeant aussi ces deux aspects, il commence sur une symphonie qui est profondément rythmique dans un premier temps, avec vraiment quasiment même un affrontement, on va le sentir hein, dans une idée de narration musicale, un affrontement du rythme contre la mélodie. Il y a vraiment cet aspect-là qui est très 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 fortement, on va le voir en détail dans les mouvements en particulier, un affrontement entre les deux, alors que les deux mouvements qui suivent, donc le 2 devenu 3, hein, le mouvement lent, puis le fameux in que tout le monde connaît, ce fameux thème extrêmement important, on est dans l'ordre du mélodique. Ce qui veut dire que Beethoven a choisi, à la base, de accoler à l'in que la symphonie va illustrer, que la symphonie va accompagner, hein, qui est vraiment l'essence même de cette symphonie, à l'in, donc à l'ode à la joie de Schiller, l'aspect mélodique, qui au début, si vous voulez, part d'un néant, part d'un aspect rythmique qui s'oppose très fortement à l'aspect mélodique qu'il utilise dans le quatrième mouvement. On a vraiment un combat, si vous voulez, quasiment, entre premier et deuxième mouvement et ce qui se passe progressivement et qui va arriver à la lumière. Et je parle bien de lumière parce que c'est bien ces propos qu'ils ont utilisés par Schiller, c'est bien ces propos qu'ils ont utilisés par les philosophes, hein, les penseurs du XVIIIe siècle, par ce genre de texte du XVIIIe siècle, la lumière, l'espoir, l'optimisme du quatrième mouvement et de l'ode à la joie, donc qui est de l'ordre mélodique. Donc il y a cet aspect-là aussi qui se retrouve dans cette construction de Beethoven. Et quand je vous dis qu'il part du chaos, quand je vous dis qu'il part du néant, quand il souhaite partir de quelque chose qui n'est rien, presque à chaque mouvement, et déjà dès le premier, presque à chaque mouvement, tous les débuts qu'il propose sont des débuts qui ne fixent pas musicalement de tonalité précise. Tous les mouvements qu'il débute, il les débute sur des intervalles, vous savez, pour construire un accord dans le langage tonal, qui est encore utilisé par Beethoven, il disparaîtra au XXe siècle, mais c'est une autre histoire. D'ailleurs, Wagner participe largement au dépassement progressif de ce langage tonal, notamment avec le prélude de Tristan et Iseult, mais c'est une autre histoire. Dans un accord, on a besoin de trois notes pour reconnaître, par exemple, évidemment, première chose, qu'il s'agit d'un accord majeur ou mineur. Ces trois notes, dans la symphonie, hein, c'est une symphonie en ré mineur, précisément, le thème de la fin est en ré majeur, vous voyez qu'il y a aussi, à ce niveau-là, un parcours qui se fait, rythmique au début, mélodique à la fin, ré mineur au début, ré majeur à la fin. L'hymne est en ré majeur, vous voyez, il y a ce parcours, on voit vraiment qu'il y a un changement qui doit s'opérer en nous, chez l'auditeur, chez le musicien, de l'un à l'autre. Il nous faut trois notes. Et il se trouve que Beethoven commence par des notes sans la note centrale, sans la tierce. Des ré, des la, à vide, qui donnent à l'auditeur une incertitude forte quant à ce qui va se passer. Est-ce qu'on est en majeur, est-ce qu'on est en mineur? Ce qui manque en fait, c'est la note du milieu, le fa. Un accord, c'est un empilement de tierces. Hein, ré, mi, fa, fa, sol, la. Donc ça fait une tierce ici. Et puis une quinte ici, hein. Deux tierces l'une sur l'autre, hein. Ré, mi, fa, sol, la, ça fait cinq notes. Voilà. Et il n'y a pas la note centrale. Il n'y a pas la note centrale, donc on part de rien, d'un chaos, d'une absence. Et tous les mouvements, je vais vous faire remarquer, tous les mouvements partent de toute façon d'une absence. Il part en fait quasiment de ce qu'on pourrait dire un silence musical, un silence qui fait du bruit, qui est fait avec des notes, mais qui est vraiment de l'ordre du silence. D'ailleurs, très 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 piano par l'orchestre, avec très peu d'instruments, et d'ailleurs, progressivement, les instruments se rajoutent, mais se rajoutent sur des embryons de rythme qui vont naître de ce silence, des petits motifs, qu'on appelle des motifs, hein. Beethoven, ça a une grande importance, chez tous les classiques, ça a une grande importance, mais ces petits motifs qui émergent du silence, qui émergent de quelque chose où il n'y a pas de tonalité, d'un chaos. D'ailleurs, Romain Rolland, qui a beaucoup glosé, beaucoup écrit sur cette symphonie, des choses d'ailleurs très très belles parfois, explique qu'est-ce qu'il dit là-dessus sur ce début du premier mouvement. J'ai dû le noter quelque part. Je vais vous le trouver. Oh, une phrase de Romain Rolland. Bon, je vous la retrouverai en temps voulu. Voilà. C'est un chaos originel, une métaphore de la création, dit-il. Je trouve que c'est une belle image, hein, dans l'idée, parce que Beethoven lui-même, dans ses premières esquisses, dès 1812, parce qu'il a fait une première esquisse, hein, du premier mouvement en 1812, il écrivait au commencement, alors, avant même d'écrire de la musique, au commencement l'esprit flottait, porté par les eaux. Il fait référence à la Genèse, hein, il fait référence à la Bible. Au commencement l'esprit flottait, porté par les eaux. Il disait la pensée, la densité, l'atmosphère, tous ayant préexisté à la forme. Et finalement on part d'un silence, on part de rien, on part d'un chaos, et
ce chaos, sur la fin de la symphonie, on sait qu'il va finir sur l'hymne, sur l'ode à la joie de Schiller. Hein, évidemment, ça a un sens très très fort. Ce chaos, le voici. Tout de suite, je mets une pause. On ne sait pas si c'est majeur, on ne sait pas si c'est mineur. C'est très froid, c'est très neutre, hein, c'est très doux. Il faut prêter l'oreille. Et de ce silence, de cette, ce pianissimo, sort des petits motifs. Ces petits motifs rythmiques qui vont être très très importants puisqu'ils vont structurer le premier thème. Hein, on va revenir sur la forme sonate, on va expliquer tout cela. Mais vous allez les entendre arriver, vous allez entendre progressivement. Ils vont se rassembler, ils vont devenir de plus en plus fort, parcourir le monde sonore, c'est-à-dire les registres du plus aigu au plus grave, donner de plus en plus à l'auditeur des éléments pour se repérer dans un chaos, hein, l'aigu, le grave, on va avoir des choses de plus en plus fortes, l'intensité qui va monter, donc on va avoir quelque chose qui se précise, et de cette émergence progressive va surgir un thème extrêmement rythmique, extrêmement important, qui est le premier thème donc, de cette symphonie. Un thème purement, mais alors purement rythmique. Donc on va écouter jusque-là. Que l'ensemble de l'orchestre, ça on l'a entendu, hein, il y a une intensification. Dans quelle symphonie il utilise ça très très clairement? Le deuxième mouvement de la 7e symphonie, qui est aussi très connu, hein, tam, 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 tam. On a aussi cette idée hein, de partir de presque rien, une toute petite cellule, un petit rien, et arriver sur quelque chose d'extrêmement complet. Là c'est encore plus fort, parce qu'il y a vraiment une absence hein, dans la construction, une absence de notes, une absence, un vide, un silence, hein, un chaos originel. Et ce thème, il est fondamental. Quasiment, on peut considérer que l'ensemble de ce mouvement, qui est très long, l'ensemble de ce mouvement est entièrement dépendant, basé sur ce thème. Il se trouve que c'est une forme sonate. Dans une forme sonate, c'est comme ça que ça se passe à l'époque classique, il y a toujours un aspect dialectique. C'est-à-dire qu'on a toujours, on peut avoir une petite introduction, un prélude, c'est presque ce qui se passe avec le chaos originel, mais bon. Si ce n'est que le thème arrive assez vite quand même, on a un premier thème, un deuxième thème avec un pont entre les deux, bon, quelque chose qui va faire le lien entre ces deux thèmes, et puis un affrontement, si vous voulez, entre une thèse et une antithèse. On a cet aspect dialectique qui est fondamental pour le XVIIIe siècle, pour l'homme des Lumières, l'homme du débat, l'homme de l'encyclopédie en France, enfin vous voyez un peu ce qu'il en est, et au milieu, des modulations, des affrontements, des choses qui vont s'enrichir, c'est ce qu'on appelle un développement. Hein, central, le développement, donc là c'est une exposition, c'est clair, une exposition entre une thèse et une antithèse, un développement central, et puis à la fin, une synthèse, hein, une réexposition, comme on l'appelle dans la forme classique, le moment où les deux protagonistes tombent d'accord, si vous voulez. Toute la période classique est basée là-dessus. Quand on écoute la petite musique de nuit ou n'importe quoi d'autre de Mozart, de Haydn, etc., on a ce genre de plan qui est utilisé. Beethoven l'utilise assez fréquemment aussi dans ses premières symphonies. Ici, il s'inscrit dans ce moule-là, il s'inscrit dans cette forme-là, mais en sort très 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 largement en faisant ressortir très fortement ce thème qui est fondamental, hein, vous l'avez entendu, qui est puissant, ultra puissant, vous avez compris comment sa puissance se propose à nous, s'offre à nous, c'est qu'elle part du chaos, qu'elle part de rien. Il y a un autre aspect de cette puissance qu'on va un peu analyser, c'est les formules rythmiques, hein, cette propulsion rythmique formidable, et en plus c'est un thème à la fois rythmique, mais c'est un thème aussi
de masse. Ça, c'est quelque chose que Beethoven maîtrise particulièrement bien, quelque chose qui a émergé à ce moment-là, c'est rythme et masse. Et ça va être l'essence même de ce mouvement. Eh bien, Beethoven se débrouille pour modifier totalement cet ordre-là des choses, tout en gardant l'idée d'un pont, l'idée de deux thèmes, l'idée de ces choses-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a ce thème A qui est fondamental. On va ensuite attendre le moment où ce thème va venir au centre de manière encore plus forte, encore plus massive, vraiment le passage le plus important, le centre de gravité de cette œuvre. Et puis ensuite, ce thème va être joué une dernière, toute dernière fois à la fin de la coda. Finalement, tout se passe dans cette œuvre-là, comme si on avait, dans le premier mouvement, un immense développement. Pas une exposition, un développement agité au centre et une réexposition de synthèse qui met tout le monde d'accord, mais un développement d'un seul et unique thème, avec tout ce qui se passe autour, qui est, si vous voulez, des affrontements, des mises en valeur, des propositions autres que ce thème, et des choses qui subliment finalement cet unique thème qui nous reste dans l'oreille très fortement. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Et si je replace l'exposition, le développement de l'exposition de la forme sonate que Beethoven utilise malgré tout, en fait ça se passe comme ça. On a ici l'exposition. L'exposition. Ici le développement. Et le retour triomphal extrêmement puissant de A qui va se faire sur un tapis de timbales. Vous avez probablement ça en tête si vous avez déjà entendu, évidemment, écouter attentivement cette symphonie. C'est la réexposition. C'est le moment où les choses normalement reviennent. Ici, la coda démarre, et là, c'est la toute fin de la coda qui est une conclusion qui conclut. Donc finalement, les trois parties d'une forme sonate se retrouvent distribuées complètement différemment dans une architecture qui présente totalement différemment les zones de tension et les zones importantes de cette symphonie. Normalement, la tension se trouve dans le développement. Vous voyez que là, le développement est peut-être moins important que la tension qui résulte du retour triomphal de A dans la réexposition. Ça, on va l'entendre, on va l'écouter, bien sûr. Pourquoi ce thème est si fort pour nous? Pourquoi il s'inscrit autant en nous? C'est notamment parce que ça, c'est André Boucourt-Achieff qui a beaucoup écrit, que j'ai eu comme professeur, j'ai eu la chance d'avoir un peu comme professeur. Il a beaucoup écrit sur Beethoven notamment. Et notamment, il a écrit un solfège sur Beethoven, il a écrit un essai sur Beethoven. Il parle de proportions rythmiques, extrêmement, de rapport de tension rythmique extrême, ce qui donne cette force de propulsion. Je vais vous l'écrire, le début de ce thème. De vous l'écrire rapidement. Donc on a comme ça. Voilà notre ré. C'est une triple croche. C'est-à-dire une valeur très 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 courte qui débute ce thème et ensuite sur un la qui arrive sur un la qui lui est lié comme ça à un la lié à une croche doublement pointée et qui elle va aller sur un fa ici en triple croche. Et puis ensuite, on a un ré. C'est l'accord de ré, la, fa que je vous ai écrit tout à l'heure, hein, qui est joué dans ce thème-là. Ré, la, avec une croche, donc, pareil, doublement pointé ici, et puis une triple croche ici, et puis un fa, croche pointée, et deux doubles qui font la, fa. Voilà. Et puis après, il y a une suite. Bon, je rentre pas dans la suite, mais ce qui se passe, c'est que si on compte le rapport qu'il y a entre cette triple croche et ici cette note liée, hein, beaucoup plus longue, on tombe sur un rapport de 1 par rapport à 15. Si on compte ici 1 pour cette triple croche par rapport à la croche doublement pointée qui suit, on a un rapport de 1 à 7. Si on compte ici cette triple croche, on a un rapport de 1 à la croche pointée ici, à 6. C'est-à-dire des rapports extrêmement variés, divers, une précision rythmique extrêmement recherchée, extrêmement précise, hein, évidemment extrêmement pointue, pardon, puisque précision rythmique extrêmement pointue, qui fait que ce rythme est une propulsion. Ce rythme a une force incroyable en nous, avec cette variété rythmique et ces tensions qu'il y a entre les valeurs longues et les valeurs courtes, hein, qui sont sur des proportions extrêmement précises. Pourquoi 15? Parce qu'une noire, hein, une noire, c'est combien? C'est 8 fois 2, c'est 8 et 8 triple croches, etc. Si vous calculez, si vous additionnez tout cela, vous tomberez sur 1 sur 15, 1 sur 7. C'est les devoirs pour la maison. Voilà, c'est bon, plus tard. Voilà. Mais bon, je vous les ai écrits, vous les avez, vous pouvez les retrouver. Il y en a d'autres, hein. La suite du thème est aussi sur ce plan-là. Voilà. Donc, ce thème, finalement, devient principal, devient extrêmement important. Il va, effectivement, y avoir un pont, y avoir un deuxième thème qui est plutôt mélodique quant à lui, etc. Mais la force de ce thème fait que, finalement, il prend un rôle secondaire. Ce qui se passe tout de suite après l'exposition de ce thème, c'est qu'on revient avec ce même thème sur une autre tonalité, en si bémol d'ailleurs. On revient sur ce même thème. Je ne rentre pas aussi dans le détail des tonalités, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On redonne une deuxième fois sur une autre hauteur ce thème-là pour affirmer encore cette importance énorme. Donc c'est la suite, hein, qu'on écoute maintenant. De nouveau un silence. Quelque chose sur ce thème, cette puissance du thème, il y a deux motifs qui se sont offerts à nous, deux motifs, c'est-à-dire deux toutes petites, on appelle les cellules mélodico-rythmiques, hein, deux tout petits éléments comme ça qui vont rester imprégnés en nous, qui sont déjà imprégnés parce que ça fait déjà deux fois qu'on les entend très fortement. Il y a le tatan du début, hein, le tatan, brève longue, et puis le que j'ai pas écrit ici, le tatatatan, tam 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 tatatatan. Ta-ta-ta-tam. Ça doit vous dire quelque chose tout de suite. Ta-ta-ta-tam. C'est quelque chose qui est très important pour Beethoven. Brève longue, c'est la cinquième, évidemment. C'est la sonata passionata. C'est enfin, dans plein d'endroits de Beethoven, on voit ça. Pour lui, vous savez, c'est le thème du destin. Vous voyez qu'il relie une des symphoniques qui, pour nous, semblait plus importante pour lui, des productions de Beethoven, qui est effectivement une des plus importantes, un thème qui a été très important tout au long de sa vie, le thème du destin, le ta-ta-ta-tam qu'on entend très bien. Il relie ça à ce thème rythmique fondamental qui ouvre la 9e symphonie. Vous voyez l'importance, hein, qu'on peut retrouver. Vous voyez cet aspect narratif aussi au travers d'une œuvre, au travers d'une vie. Hein, vous voyez aussi cet aspect-là qui est aussi important là-dedans. Ce qui suit, c'est un pont. C'est un thème secondaire, qui est effectivement secondaire, qui n'a pas le poids du premier, mais qui doit vous rappeler quelque chose quand on connaît la symphonie, ou en tout cas, vous, quand on la découvre, présager de quelque chose qu'on va entendre par la suite. En fait, il ressemble, il appelle le thème de l'hymne à la joie. Vraiment, il ressemble fortement à ce thème-là. C'est le pont qui joint le thème mélodique et le thème rythmique. Il prend vraiment une valeur secondaire, mais je vous attire l'attention là-dessus. Je vous attire l'attention parce que j'ai mis une pause. Donc évidemment, on va tomber là-dessus. Quand on écoute la symphonie d'un trait, on l'écoute et on entend très fortement, beaucoup plus fortement ce premier thème. Hein. Donc là, évidemment, comme je la segmente, on repère d'autres endroits, mais ça coule en fait, hein, après. Hein. Donc ce thème-là, le voici. Le deuxième thème qui entre en dialectique en opposition avec le premier. Excusez-moi, je mets juste une petite pause, hein. On est obligé de segmenter, hein, pour l'analyser. Vous entendez quelque chose qui est typiquement utilisé très fréquemment par Beethoven, des lignes de force qui se croisent. Des lignes montantes avec des lignes descendantes. Ça, c'est quelque chose de très très important pour Beethoven. C'est, normalement, on est dans la mélodie, on est plutôt dans quelque chose de stable, quelque chose qui pose, hein, qui est plutôt lyrique normalement, qui devrait s'opposer à l'aspect moteur du rythme. Et il fait des croisements comme ça de lignes, des croisements de forces qui au contraire déstabilisent, ne donnent pas une stabilité dans l'audition, ne donnent pas quelque chose qui se pose, qui est sur de l'ordre du lyrisme, du mélodisme, qui est plutôt dans la stabilité. Et en fait, ce thème-là va être caractérisé par un affrontement avec des motifs issus du rythme masse du premier thème. Vous allez avoir à chaque fin de phrase, de temps en temps, le rythme et la masse qui réarrivent, donc qui réapparaissent. Et donc, on se trouve en fait dans un conflit, hein, constant, et on voit vraiment que c'est celui-là qui parle et qui anime finalement tout parcours qu'on amorce par la suite après l'avoir énoncé. C'est ce qui se passe ici. Rythme masse, hein, très clairement. On revient sur le mélodique. Et puis... On est toujours dans le mélodique, hein, si vous voulez. Mais en dessous... Après la forme classique, on se trouve être à la fin de l'exposition. Et normalement, le conflit, le développement, ne devrait débuter que maintenant, c'est-à-dire l'affrontement entre deux thèmes. Vous voyez qu'on est déjà dans un affrontement, on est déjà dans un développement. Le thème mélodique a été confronté presque dès le départ, presque dès le début, à l'emprise de plus en plus forte de rythme et de la masse du premier. Vous avez entendu sur quoi on a fini, hein, tan-tan-tan, ce fameux motif rythmique très prégnant, très important, qui débute le premier thème. Donc l'affrontement est là. Et finalement, on se retrouve dans un affrontement qui ne va faire que monter. Hein, il y a un développement qui ne va faire que monter jusqu'au retour triomphal dans la réexposition qui normalement devrait être une synthèse et qui là se trouve être le passage le plus important comme un développement de la symphonie, hein, le retour triomphal de l'exposition. Donc on va écouter le développement d'un trait là, si vous voulez, je ne vais pas vous le commenter mais vous allez bien entendre ce dont il s'agit. Le conflit se poursuit, hein, entre les deux forces et là je vais bien vous faire remarquer ce retour triomphal de la réexposition, hein, du thème qui se trouve être le point central maintenant de l'œuvre. Ces motifs sont importants, hein, entre le tatam et le tatatatam qui reviennent dans la zone. atteint le point culminant du mouvement. C'est normalement censé être une réexposition qui rend les arguments, les différents protagonistes d'accord, qui tombent sur une période d'accalmie. Hein, normalement, c'est une période de sérénité qui anime tous les débuts des formes sonates de Haydn, de Mozart, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est dans le point le plus haut, le plus puissant, le plus intense de l'œuvre, où ce thème revient très puissant sur un tapis de timbales, hein, donc le fameux tapis de timbales qu'on retrouvera fréquemment dans la musique romantique, hein. Il n'y a qu'à penser au Requiem de Berlioz, il n'y a qu'à penser à beaucoup d'autres moments comme ça, mais là il est intense, il est puissant, donc hein, on n'est pas du tout dans cette articulation logique du classique, hein, véritablement. Donc le voici, hein, ce moment-là. Une spécialité d'ailleurs de Beethoven, c'est une coda, donc une conclusion. On a ça chez Mozart, chez Haydn de temps en temps. Là, elle prend un pouvoir considérable. On aurait pu terminer l'œuvre à ce moment-là, on aurait pu l'imaginer, mais ce n'est pas possible. Dans le sens d'un développement continu, dans le sens d'un développement continu sur un même thème, il faut que ce thème revienne à la fin, il faut qu'il redonne un dernier état. Et c'est cette coda qui va le donner à la toute fin, à la toute, au tout dernière note, au tout dernier moment de l'exposition, la coda qui débute maintenant. Vous avez entendu sur... Il fait assez chaud, oui, c'est vrai, je trouve aussi. Et vous avez entendu sur cette sur cette dernière partie, hein, très clairement, on l'a eu à plein de moments, de nombreux moments dans le développement qu'on a suivi, sur cette dernière partie précisément, on entend très très clairement à quel point, en fait, je laisse juste finir d'ouvrir la fenêtre, voilà, juste à quel point l'ordre rythmique, le rythmique en fait, hein, les phrases rythmiques sont en affrontement très clair avec l'ordre mélodique. On a compris à quel point, en fait, le rythme prenait l'ensemble de la symphonie. Vous avez vu, vous avez entendu à quel point ces petits motifs, hein, très très brefs, très très évidents, ces tout petits motifs qui constituent le premier thème, à quel point on les a entendus tout au long, à quel point ils ont marqué, teinté tout le long de la symphonie. Hein, ça, c'est assez important, le fait qu'on les retrouve, hein, dans l'ensemble. Et voilà, donc ça, on a vraiment un affrontement, hein, ce rythme a teinté même les passages les plus mélodiques, les plus lyriques, ils ont été tout de suite confronté à cette opposition et à ce combat, hein, cette lutte en fait qui a été menée tout au long du mouvement. Et voilà la coda, on va écouter l'entrée jusqu'à l'énonciation du dernier thème. Dernier état, le troisième, hein, et dernier état du fameux thème le plus important de cette symphonie. Qu'est-ce qu'il y a qui a pu, je relis toujours, hein, évidemment, dans le cadre de cette conférence, qu'est-ce qui a pu intéresser particulièrement Wagner dans ce traitement sur ce premier mouvement? Il y a deux choses, hein, principalement. Vous voyez la façon très 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 libre d'interpréter une forme déjà existante, une forme presque imposée hein, de l'époque, la façon très 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 libre de Beethoven de l'utiliser, proche, très proche de ce qu'on appelle hein, déjà chez Schubert le Durchkomponiert, c'est-à-dire la composition continue. Durch, ça veut dire à travers, komponiert, composer au travers. Hein, donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas de support autre que le musical lui-même, mais c'est une forme libre en fait, c'est une composition continue. Beethoven a choisi le développement continu sur un seul unique thème qui a teinté un peu tous les autres éléments de la forme sonate. Donc c'est une composition libre et continue. C'est exactement ce que fait Wagner, vous savez, au travers de ses opéras, dans lesquels il s'est débarrassé de ses numéros, de ses arias, de ses récitatifs et de ses différentes structures qu'on utilise encore dans l'opéra italien. Cette composition libre et continue d'un bout à l'autre. Ça peut éventuellement intéresser. Et puis autre chose, je vous ai fait remarquer que dans le pont, on avait un rappel très fort, très important. Vous l'avez peut-être saisi, maintenant je voulais peut-être pointer comme ça, de l'hymne qui arrive, enfin un rappel, c'est pas un rappel, c'est un rappel pour nous qui connaissons l'œuvre, mais ou un appel de ce qui va venir par la suite. C'est déjà une première forme d'un thème qui va être le thème important du quatrième mouvement, le thème important de la symphonie en elle-même. Et donc, quelque part, c'est une sorte déjà de leitmotiv. C'est-à-dire, c'est un leitmotiv d'ailleurs qui a animé, on va le voir, Beethoven tout au long de sa vie. Hein, qui a été très très important, qui est un thème qui l'a façonné tout au long de sa vie, mais on le retrouve aussi tout au long de la symphonie. On le reverra aussi tout de suite dans le mouvement qu'on va écouter, le trio central du scherzo qui suit, hein, du mouvement très vif hein, qui suit, qui est censé normalement, qui devrait être le fameux mouvement lent. Donc vous avez compris qu'on est dans l'univers du rythme. Hein, vous avez entendu très très clairement que même les passages mélodiques étaient contrariés en opposition avec le rythme. On reste dans le rythme, hein, c'est ce que je disais, Beethoven a échangé le troisième et le deuxième, donc le scherzo hein, devient le deuxième mouvement. Il ne l'appelle pas scherzo, d'ailleurs. Il l'appelle tout simplement molto vivace. C'est pas la première fois. Il va faire ça aussi par la suite dans son quatuor à cordes numéro 16. Il va le faire dans d'autres mouvements. Au lieu de mettre scherzo pour bien montrer qu'il prend en main la forme et qu'il la modifie à sa volonté, il appelle ça d'une autre manière. Il appelle ça molto vivace, donc le nom d'un tempo. Hein. Et non pas scherzo, ni encore moins menuet. Mais c'est la même forme. Et ce qui se passe, c'est que au-delà de la forme scherzo, trio, scherzo, habituellement utilisée, Beethoven, de nouveau, va amener une modification de conséquente. C'est qu'il va mettre deux thèmes dans le scherzo. Deux thèmes, d'ailleurs, qu'il va donner avec deux visages différents. Donc, on va avoir A puis B, hein, avec des reprises. Alors là, selon les chefs d'orchestre, il y a ou non les reprises, hein, entre les Furstwängler, Karajan, etc. Il y a ou non les reprises, où on en fait un peu plus, un peu moins. Et donc il les redonne avec une autre reprise, éventuellement, donc A, B, A, B, voilà le scherzo. Et le trio, qui est le passage central, plus tendre, plus intime, qui suit, eh bien, il est lui-même issu du deuxième thème. Vous voyez, donc il prend de grandes, grandes, grandes libertés avec la forme, et il donne surtout une unité thématique à et l'ensemble de sa symphonie et les différentes parties hein, qu'il traite dans un même mouvement. C'est aussi ce que fait Wagner avec ses leitmotifs en donnant une unité hein, à ses opéras dans lesquels on retrouve de l'un à l'autre les mêmes leitmotifs ou dans un opéra, dans le même opéra, des leitmotifs qui arrivent à différents moments, à différents endroits. Dans un point de vue strictement musical, sans parler de narration, sans parler même du sens hein, qu'il revêt, c'est aussi une fonction d'unité, d'unification hein, d'un cycle hein, musical. Alors, le trio qui suit donc, est issu très clairement de ce deuxième thème. Et lui-même, il est repris deux fois. Et on revient au début, hein, on dit da capo, c'est-à-dire on revient à la tête, et sans les reprises cette fois, donc on va faire ça, A, B, A prime, B prime, et puis on finit sur une coda qui va rappeler et le thème A et le trio. Ce trio central, vous allez le voir, lui aussi, il évoque l'hymne, l'ode à la joie, qui arrivera à la fin. Lui aussi, il appelle à ce fameux thème, très fameux thème, que Beethoven, je le répète, hein, constitue, présente à nous vraiment comme un hymne. C'est pas si étonnant que cela qu'il ait servi à autant de monde, autant d'idéologies très, très différentes, hein, ce fameux thème. Voire très, très contestable, évidemment. C'est pas du tout étonnant qu'il soit devenu un hymne, parce que tout est fait pour qu'il soit présenté comme tel. Tout est fait pour qu'il soit amené comme tel. Donc on va écouter, bah tiens, on va écouter une version assez différente. Hein. On pourrait rester sur la version, c'était du Karajan là que je vous faisais écouter. Une version peut-être que vous connaissez moins, qui a beaucoup fait parler d'elle à une certaine époque, au début des années 90 quand elle est sortie. C'est la version de Harnoncourt, chef baroque, hein, vous voyez, qui s'est attelé aussi à. Et il y a des choses intéressantes, il y a des choses à voir. On a un Beethoven un peu moins massif, peut-être moins romantique, mais tout aussi puissant qu'on trouve au travers de ces. Je vous en ai amené quelques-unes pour que voilà, pour qu'on ait d'autres. Enfin, j'en ai amené deux en l'occurrence pour qu'on ait d'autres écoutes. Je me suis trompé de CD. Voilà, c'est celui-là. D'autres visions. Voilà celle d'Harnoncourt. Alors, dans cette œuvre, pardon, il faut que je continue de préciser quelque chose. On reste dans le rythmique et Boukouachev d'ailleurs parle d'un temps strié. On a une rythmique qui ne se dément jamais. C'est encore plus rythmique presque que le premier, c'est-à-dire qu'on a une pulsation non-stop qui passe d'un bout à l'autre. Et évidemment, des progressions de timbre, de masse, toujours hein, sur le même principe. On a les deux mouvements qui sont plutôt du côté du rythme et deux mouvements qui sont plutôt du côté de la mélodie. Hein, je disais les deux premiers hein, dans le rythme. On a des progressions extrêmement puissantes, des crescendo, des masses d'orchestre qui s'intensifient, etc. Et Beethoven pratique ça très, très, très bien, surtout dans un temps strié, dans un temps continu comme ça, dans un temps marqué. Il pratique très fréquemment des replis stratégiques. C'est-à-dire qu'à un moment où on sent que ça va exploser, hop, il revient en arrière, il filtre l'orchestre, c'est-à-dire qu'il met moins de musiciens, ou il tombe sur un pianissimo très brusque, un arrêt soudain, hein, on perd une pulsation, on perd quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ces replis? Pourquoi est-ce qu'il opère ces replis stratégiques? C'est évidemment pour que l'explosion soit d'autant plus forte. Et on l'entend très très bien à la fin de A, à la fin de B, à plusieurs moments comme ça, il y a des replis très très forts, très très évidents. Hein, on n'a pas une progression continue, ce ne serait pas possible, ce serait très plat d'ailleurs de faire des progressions continues. Il maîtrise très bien ses rapports de force. Donc ça, c'était quelque chose d'assez évident. Il y a aussi quelque chose de phénoménal, c'est à plusieurs moments, notamment au tout début, dans l'introduction, qui est hors du plan, là, un petit peu avant A, et à d'autres moments, dans A', hein, qui revient à deux mesures, on a des coups de timbales à vide. Ça, c'est très rare, évidemment, ça va arriver de plus en plus fréquemment dans la musique romantique. C'est plus puissant que n'importe quelle forte. Quand vous avez un coup de timbale comme ça qui sonne à vide, hein, et qui donne comme ça ce tonnerre, hein, cet éclair très très puissant, c'est aussi puissant qu'un forte de tout un orchestre, mais encore plus puissant. Et on l'a dès le début. Et dès le début, comme dans la première œuvre, comme dans le premier mouvement, on part d'un silence. On part de quelque chose où on ne sait pas où on est. On a de nouveau une descente, sur les mêmes arpèges, sur Ré, La, Ré, hein, sur des octaves, des quintes, avec les mêmes notes. Et qu'est-ce qui nous donne la tierce? Qu'est-ce qui nous donne l'accord? C'est ce fameux coup de timbale, d'ailleurs. Donc on part de nouveau du silence, comme dans le premier mouvement, du chaos originel, pour en arriver à un thème. Et donc on entend très clairement ici. Vous avez entendu, là, ce coup de timbale, c'est lui qui donne la tierce. C'est lui qui donne la tierce de l'accord. C'est encore plus rare. Non seulement c'est un coup de timbale à vide, en plus, c'est le coup de timbale qui complète l'accord. Normalement, la timbale, elle est en soutien harmonique. Elle donne la note de base de l'accord. Là, elle donne une tierce, une note centrale, une note qui donne la couleur de l'accord. La timbale ne fait pas ça, normalement. Elle complète, hein, surtout, elle renforce l'harmonie de base. Donc là, c'est assez étonnant. Et c'est du silence. Vous écoutez le premier mouvement, hein, le fameux silence du premier mouvement. Et le silence du deuxième. Comblé par le thème qui commence. En fugato, hein, ce sont des voix qui entrent tour à tour, horizontales, en se poursuivant. Hein, donc cet aspect d'urgence d'ailleurs, hein, les voix qui se poursuivent. Thank you. était sur quelque chose d'extrêmement puissant, c'était amené à devenir plus explosif. On a eu un silence avant la reprise, juste avant la reprise. Toujours fugato, hein. Pourquoi est-ce que Beethoven utilise la fugue, hein, vous voyez, cette poursuite entre les voix, qui est plutôt un genre qui était abandonné. Le dernier grand compositeur, c'était Bach, hein, qui meurt en 1750. Pourquoi est-ce qu'il utilise ça à plusieurs moments dans sa carrière, plusieurs moments dans ses œuvres? Parce que, enfin, au-delà de sa carrière, dans ses œuvres, pardon, parce que c'est quelque chose qui donne ce sentiment d'urgence. Quand, lorsqu'on a toutes ces lignes qui galopent l'une après l'autre, hein, toutes ces lignes, justement, fugue, hein, c'est le bateau, on a un sentiment d'urgence qui lui sied parfaitement. Quand on écoute des fugues de Bach, on a une impression d'équilibre et d'harmonie parfaite. Au contraire, on a une impression d'ordre, de plénitude. Quand on a la fugue chez Beethoven, au contraire, c'est une course, un mouvement. Ouais, c'est bien pour ça qu'il l'utilise. Arnoncourt fait la reprise, car Jan Furtwängler ne la font pas.
Thank you.
juste une pause ici. Il va reprendre le B hein, qui suit ici. Vous avez suivi sur la forme. Pourquoi est-ce qu'il met deux thèmes? Pourquoi est-ce qu'il fait une opposition comme ça entre deux thèmes? Ça, c'est un rajout formel. C'est quelque chose vraiment qui n'existe pas normalement dans un menuet, dans un scherzo, où on a le scherzo, enfin, le menuet, le trio, plus tendre, plus chantant, plus intime, etc. De nouveau le menuet. Lui, il fait une opposition. Vous l'entendez, elle est claire entre les deux thèmes. Le deuxième thème, il est plutôt mélodique, d'ailleurs. Parce que ce deuxième thème, plutôt mélodique, comme dans le premier mouvement, il est contrarié. Il est sans cesse en opposition avec déjà le temps strié, le temps extrêmement marqué, hein, qui anime tout le scherzo, et puis par une conclusion donc, qui ressemble beaucoup à « Ah, ça c'est très important ». Il montre bien que l'ordre mélodique, qui sera à nouveau en reflet, en regard de ce qui va se passer dans l'hymne, hein, dans l'ode à la joie, est de nouveau contrarié par ce début, qui est le début du chaos, hein, le début d'avant hein, cette plénitude que Schiller défend dans ce texte de l'ode à la joie. Qu'est-ce que dit ce texte en fait hein? C'est un moment où Schiller ne croit plus forcément à la lutte politique, ne croit plus forcément au changement dans le combat social, on va dire, hein, pourtant qu'il va s'amorcer dans la Révolution française jusqu'aux 4 ans après le texte. Il croit en fait à une plénitude, à une libération des hommes par l'art, par la beauté artistique. D'ailleurs, Beethoven prend beaucoup plus les aspects de ce texte qui revendiquent hein, cet aspect-là des choses. Et quelque part, c'est ce combat, c'est cet aspect-là qui se retrouve dans les deux premiers mouvements et qui va être sublimé spectaculairement dans le quatrième mouvement. C'est pour ça qu'il rajoute ce thème-là, pour montrer encore l'importance du rythme et pour affirmer encore, comme dans le premier mouvement, que le début est un combat, est une lutte comme ça, et que la lumière n'est pas encore là, si vous voulez. Il est presque franc-maçon, mais il y a des grandes relations avec cet aspect-là des choses aussi, même si Schiller ne l'est pas, je le répète, mais il y a des grands aspects avec cette réflexion à l'époque-là. La lumière n'est pas encore là, on est encore dans le domaine de l'ombre, hein, si vous voulez. Et le trio, d'ailleurs, qui s'engendre de B, ça aussi c'est important, il y a cette liaison hein, dont je vous ai parlé avec Beethoven, le trio rappelle très fortement, ou appelle très fortement, ce que sera l'hymne de l'Ode à la joie. Hein. Donc il y a encore cette idée leitmotiv, en fait, qu'on avait eu aussi déjà dans le pont du premier mouvement. Donc je laisse le B ici défiler par un autre niveau. Cette hymne qui est pas loin en fait hein, qui est presque évoqué. Reprise du trio. On voit bien les blocs de son qu'utilise Beethoven. Les cordes graves, moelleuses. Cordes et corps, juste après. Un ensemble de vent. capo qui suit, juste après. Écoute, en entier, c'est un acapo. C'est-à-dire qu'on va réentendre ces phrases-là, d'accord, et on va ensuite avoir une coda. Ce qui se passe, c'est que ce trio, qui semblait apaisé, hein, qui semblait évidemment arriver dans un aspect mélodique, dans un aspect important comme ça, de la, musicalement, où on intégrait hein, l'aspect mélodique, a tout de suite été, là je l'ai laissé jusque-là exprès, a été tout de suite contré par ce retour de l'introduction très rythmique, avec ce coup de timbale à vide. Tout de suite, on est repassé dans l'ordre rythmique. Donc, on est encore dans cet ordre rythmique. On va passer au mouvement suivant, au mouvement lyrique, hein, au mouvement plus mélodique. Mais lui aussi va être gêné, va être empêché, surtout sur la fin, par des nouvelles apparitions du rythme. Il faudra vraiment attendre l'hymne, il faudra vraiment attendre la fin pour qu'on passe dans l'ordre mélodique et dans cet aspect important que veut proposer Beethoven. La coda, je ne vous la fais pas entendre, mais la coda, en fait, elle reprend juste un petit bout de A, juste un petit bout de trio, et elle termine par une toute petite phrase qui fait écho à la première phrase hein, qu'on vient de réentendre avec le coup de timbale à vide. Ça, vous le réécouterez éventuellement tranquillement hein, chez vous. Vous verrez que cette petite phrase, elle fait vraiment écho à ça. Boukouachev parle de ça, d'un véritable cercle. C'est-à-dire que vraiment, on part de quelque chose, on finit sur quelque chose, on part d'un rythme, d'un élément rythmique, et on finit sur cet élément rythmique, une ronde dionysiaque, dit-il. Bon, c'est une belle image, on peut être ou non d'accord, mais voilà, il voit ça vraiment comme cet aspect-là, assez sauvage. C'est pas si sauvage que ça avec Arnon Cour, j'en conviens, hein, mais on peut l'entendre chez Fürst Winkler, chez Karajan ou d'autres, avec un aspect encore plus sévère. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce troisième mouvement ? Dans le troisième mouvement, on a donc une alternance. Effectivement, c'est une forme lead, si on veut prendre hein, le modèle classique. Effectivement, on a bien deux thèmes qui se répondent, A, puis B, puis A de nouveau. Beethoven agrandit un petit peu cette forme-là, mais de nouveau, il prend de grandes libertés avec cette forme-là, parce qu'il propose, en fait, deux fois le thème B, quasiment identique. Ce qui va changer simplement, seulement, c'est l'instrumentation. B est un repère extrêmement stable dans une succession de répétitions d'un thème mélodique très 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 beau qui lui, cette succession avance par variation. Donc on a deux manières encore une fois de libre de gérer cette succession ABA qui est normalement la forme lead. On a en fait un thème variation quasiment qui se produit et une stabilité intercalée, une sorte de refrain quasiment qui s'intercale au milieu. Vous voyez, donc c'est assez particulier, c'est encore une grande liberté que prend Beethoven par rapport à cette forme. Bon, il y a un changement de mesure, en plus là on est à 4-4, là on est à 3-4, donc à 4 temps ou à 3 temps hein, sur l'un ou sur l'autre. On a un changement de tempo aussi, c'est-à-dire que là on est sur Adagio et on est sur Andante. Adagio, Andante, voilà. Et les deux se répondent. Il n'y a pas vraiment d'antagonisme. Il y a une sorte de vision mélodique de l'ordre de la nostalgie pour celle-là, de l'ordre de la sérénité pour celle-là. Sérénité renforcée par le fait qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne change pas. Hein, donc il y a une opposition à l'intérieur même de cet ordre mélodique qui est important pour Beethoven, mais pas vraiment une opposition en lutte, c'est un complément. C'est un miroir l'un de l'autre. Deux expressions d'un même être, quasiment. Hein, vous voyez qu'on va entendre dans cet aspect-là. Et ce qui se passe, et ça je suis sûr que vous l'avez dans l'oreille, même si vous ne le voyez pas tout de suite de mémoire, il y a quelque chose de très très fort qui arrive dans la variation 3 et 4 ici, ce sont des fanfares qui brisent vraiment, clairement, qui brisent les dernières mélodies hein, qui arrivent et qui cassent comme un bloc et qui annoncent finalement ce qui va se passer dans le final, très très important. On aura de même une coda sur la fin. Il finira sur une sorte de dernière variation de A. Donc vous voyez qu'on a deux formes, une forme qui n'est pas tout à fait modèle, pas tout à fait une recette de cuisine, pas vraiment. Hein, chez Beethoven, on a une très 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 grande liberté formelle et encore cette idée d'une musique très narrative, d'une musique particulièrement intéressantes pour des compositeurs qui vont suivre, tels que Wagner, évidemment. Encore du Durch Componier, tu as quasiment encore une idée de composition continue hein, dans cet aspect-là des choses. On continue sur Harnoncourt. Juste, je voudrais vous faire entendre l'opposition entre les deux. Et comme le temps file toujours, je suis désolé, c'est comme ça. Je sauterai peut-être une ou deux variations ici pour vous faire entendre très clairement les fanfares qui sont très importantes à repérer. Et on va écouter un peu le dialogue entre les deux jusqu'au deuxième B. Ça s'entend assez bien. Petite remarque, encore et à nouveau, on part du silence. Encore et à nouveau, on ne sait pas où on est quand on débute. Toujours Beethoven illustrera musicalement, finalement, ce qu'amène l'ode à la joie de Schiller. Le chaos, la lumière. Vous voyez ? Encore une fois, comme dans le premier, comme dans le deuxième mouvement, on ne sait pas où on est. Et là, on sait, et la mélodie débute. Évidemment, d'avoir placé ce mouvement en troisième position lui donne une importance tout autre que s'il était arrivé après le premier mouvement. Vous vous rendez bien compte du choc qu'il produit, hein ? Voilà B qui s'amorce ici. La seule différence qu'on a entre ce B là et ce B là, c'est que là c'est joué plutôt au violon, l'autre ce sera plutôt au bois. Retour de A, ici. Première variation, plutôt mélodique celle-là. Attendez, en rajoutant mélisme.
début de B, pour rappel, la mémoire qui revient, qui ne varie pas quasiment. Cette fois, jouer au vent, hein, on boit. Mais sans modification ni mélodique ni rythmique. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant avancer. Donc vous avez compris qu'on va avoir plusieurs variations de A qui va revenir. On va écouter peut-être la fin de celui-là. On va écouter le passage où il y a un solo de cor. Juste, je voudrais vous faire entendre ces fameuses fanfares, ces fameuses apparitions de la trompette, des cors aussi, mais surtout les trompettes. Beethoven, ce qu'il fait dans cette symphonie et dans beaucoup d'autres endroits, en fait, hein, c'est qu'il traite l'orchestre d'une manière assez nouvelle, évidemment, qui devient structurante. C'est-à-dire que l'orchestre, qui était plutôt une coloration chez Haydn et chez Mozart, devient ici une manière de structurer le son. On ne peut pas, comme on lirait du Bach sur une partition, quand on sait lire la musique, et prendre du plaisir à lire Bach sur une partition, on ne peut pas lire Beethoven et prendre du plaisir à lire Beethoven sur une partition. Ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'il était sourd, ça c'était assez incroyable de y penser, mais on ne comprend Beethoven qu'en étant dans son son, dans sa matière, et on n'arrive pas à saisir ce qui se passe sur une partition. Donc vraiment, il donne une indépendance aux instruments, une couleur aux instruments. Vous avez entendu ce coup de tabac à la vide. Ça, c'est très particulier, très évident dans cette illustration. Les fanfares, c'est la même chose. Ils donnent une autonomie aux trompettes et aux différents instruments voilà, qui complètent le noyau des cordes. Donc on va écouter juste ce passage-là, cette fin. Ça arrive par là. Voilà, à peu près par là. Excusez-moi, ça arrive même un petit peu après. Voilà, vers ici. Les premières fanfares, et puis on va écouter la première et la deuxième, qui sont assez importantes, qui cassent le discours mélodique, qui le brisent, jusqu'à sa dissolution d'ailleurs. Première apparition. Reforme, revient, pas très facilement, ça se reconstitue malgré tout, à partir de ce moment-là, hein, dans les dernières variations et jusqu'à la coda, on assiste à une dissolution de cette mélodie. Ce que vous avez eu là sur quelques instants, sur un tout petit instant, c'est finalement la lutte à laquelle on a assisté dans les deux premiers mouvements. C'est-à-dire que cette lutte entre le rythmique et le mélodique est toujours présente. Cet aspect-là est toujours là. Il arrive sur la fin, ça n'a aucune raison d'apparaître, hein, cette fanfare. Elle est vraiment très libre. Elle n'a aucune raison ni formelle, ni même thématique d'apparaître. C'est un élément totalement nouveau, totalement étonnant qui arrive là. Et c'est un élément qui fait référence à la lutte qu'il y a eu avant et à la lutte qui va s'amorcer maintenant. Le début du quatrième mouvement, il est très, très, très savamment, longuement pensé par Beethoven. Il débute par ce que Wagner appelle une fanfare de l'épouvante. Hein, vous savez, c'est cette grand bruit, vraiment un bruit, hein, qui balaye comme ça l'univers sonore, de l'aigu jusqu'au grave. De nouveau dans ce bruit, d'ailleurs, si on s'y penche, on retrouvera la fameuse arpège, hein, ré, la, ré, la. Hein, vous voyez qu'on a dès le début, qu'on a dès le début dans le premier mouvement, qu'on a dans le deuxième mouvement où il y a le coup de timbale à vide, hein, où on a encore ré, la, qu'on a dans le troisième mouvement, même si on écoute le début du thème, c'est à peu près ça aussi. On a toujours cette même arpège qui arrive et qui unit comme ça les trois mouvements. On l'aura aussi, on l'a dans cette grande fanfare de l'épouvante. C'est un petit peu, Beethoven le fait très très fréquemment, c'est un petit peu comme si je prenais mon éponge, ce que je vais faire d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le moment de le faire, et j'effacais mon tableau. Beethoven fait ça fréquemment dans ses œuvres, il fait ça dans les sonates appassionata, il fait ça dans des moments forts comme ça. Au moment où il va annoncer quelque chose de terriblement important, il balaye l'espace sonore pour remettre les compteurs à zéro, si vous voulez, hein, de l'auditeur. C'est-à-dire qu'il rend neutre finalement tout ce qui a pu se passer, rend, efface en nous tout ce qui a pu s'inscrire en nous et dit attention, il va s'amener quelque chose de nouveau, de profondément important. Et c'est d'autant plus important que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé quasiment dans la musique. On a ça un tout petit peu chez Haydn sur quelques symphonies, on a ça de temps en temps, mais en fait là l'orchestre va se faire récitant. L'orchestre va prendre la parole, c'est les cordes graves, contrebasse et violoncelle qui vont le faire. Et l'orchestre va se faire récitant, et là, correspond totalement à la vision qu'en a Wagner d'une symphonie, d'un orchestre symphonique capable de dire autre chose que la parole. L'orchestre, avant même que le chœur et que les solistes n'apparaissent, prend la parole. Et Beethoven écrit dans ses premières esquisses, il ne lui manque que la parole. Il l'écrit très clairement. Et ce qu'il va faire, c'est quelque chose d'absolument génial, c'est qu'il va donner une unité à la symphonie en dehors de toutes les différentes procédé d'unité qu'on a déjà croisé, c'est-à-dire en dehors de l'évocation du thème de l'hymne de l'ode à la joie. Hein. En dehors de cette évocation, on a déjà eu ça, qui s'est retrouvé dans les différents mouvements, en dehors de l'unité qu'on retrouve au travers de l'arpège, ré, la, ré, la, ré, la, qu'on a tout le temps, qu'on va retrouver ici à nouveau, du silence, du chaos d'où on part, de nouveau on part d'un chaos d'ailleurs, je vous le fais remarquer, en dehors de cela, il va rappeler chaque début du mouvement, la symphonie, il va rappeler le premier mouvement, avec l'orchestre, il va rappeler le deuxième mouvement, rappeler le troisième, avant seulement après avoir réalisé ce rappel, cette synthèse, introduire ce fameux thème qui l'anime tout au long de sa vie. Ce fameux thème, hein, qui était très très important, qu'il a mis beaucoup beaucoup de temps à réaliser, ce fameux thème de l'hymne à la joie. Et il écrit d'ailleurs sur ses brouillons, sur ses esquisses, au moment où il rappelle le premier thème, hein, le on l'entend très très clairement, il écrit sur les esquisses, sur les brouillons, hein, au nom, ceci nous rappellerait trop notre doute. Vous voyez le combat qu'il y a dans le rythme contre la mélodie, hein, cet aspect-là, il parle de son doute, il parle du destin, il parle de tout cet aspect-là, on entendrait le ta-ta-ta-tan, qui est aussi un thème, hein, qui l'anime tout au long de sa vie. Quand il écrit le deuxième thème, qui est le fameux thème, le scherzo, hein, très très rythmique, il écrit, ceci non plus, ce n'est que plaisanterie, il faut chercher quelque chose de plus beau. Et quand il rappelle le troisième qu'on vient de quitter, le troisième thème, le troisième mouvement, il écrit à côté, cela est trop tendre, il faut chercher quelque chose de plus éveillé. Et quand on entend enfin le fameux thème de l'hymne à la joie, que tout le monde connaît, ah le voici, il est trouvé, joie. Ça, il écrit ça à la main, texto, sur ses premières partitions. Hein, donc ça, c'est évidemment extrêmement intéressant, hein, à relever. Et la musique se fait là clairement, alors qu'elle l'a fait tout au long. Hein, je me suis attelé à vous le montrer, hein, au travers de différents procédés. La musique là devient clairement narrateur, hein, évidemment. Donc voici le début de ce quatrième mouvement. Ça commence par ce chaos, ce balayage. D'opéra. balayé. C'est pas ça. Deuxième mouvement, le scherzo, le vivace, molto vivace. Balayé. Troisième mouvement, trop tendre. Timidement, d'abord, dans le très grave, il va tourner autour de ce thème de l'hymne, comme il a tourné autour toute sa vie, je vais vous montrer dans un instant. Sublimé par l'orchestre avec une technique qu'il maîtrise parfaitement, hein, partir du fin fond de l'orchestre, du très très grave, du très piano, et prendre tout l'espace sonore, un petit peu en reflet du chaos originel qui a commencé, la fanfare de l'épouvante dont parle Wagner, hein, le début, hein, qui balayait tout, ça se fait là, dans une construction. Donc en fait, on est encore passé au niveau miniature, hein, de l'ombre à la lumière. Hein, de nouveau, on a encore accompli le travail que propose l'Ode à la joie, en quelques minutes de musique, hein, vous voyez ici, hein, c'est ce qui se passe à ce moment actuellement. Avant même qu'on ait des paroles, avant même qu'on ait un cœur, le sens a été donné musicalement.
s'arrête ici, de nouveau le chaos. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a tout donné, même la construction, l'avènement du thème, il l'a tout donné pendant très longue introduction de ce quatrième mouvement, uniquement à l'orchestre, avant même d'introduire son chœur, d'introduire ses solistes. Donc il a pris largement le temps de présenter. Je vous disais que c'était un petit peu à l'image de ce qui avait animé durant sa vie. La construction de ce thème a été très longue. La constitution de ce thème ne s'est pas faite uniquement au moment de l'écriture de la 9e symphonie. À plusieurs moments dans sa carrière, à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, on voit apparaître différents états de ce thème. Et notamment dans dans une œuvre très très connue, on l'entend quand on écoute la première œuvre, d'ailleurs la seule avec la 9e symphonie qu'il a composée en dehors de la musique sacrée, hein, en dehors des messes, hein, bien sûr, qu'il a composée pour vraiment des voix et un orchestre, en dehors aussi de l'opéra, bien sûr, là c'est prévu. Il a écrit une fantaisie pour orchestre, opus 80, peut-être vous la connaissez, pour piano et orchestre et un chœur. Et il a écrit en 1808, donc bien avant, presque 20 ans avant la 9e symphonie. Je vous en fais juste entendre un petit extrait, vous allez voir, c'est assez éloquent. Un petit extrait du final, mais quand on a le cœur, c'est la même chose. Écoutez le thème qui est joué dans cette pièce. Fantaisie en do mineur pour piano, chœur, orchestre, opus 80. D'avancer un tout petit peu pour qu'on arrive vraiment sur le thème. C'est ressemblant. Et puis bon, là on écoute juste un tout petit extrait, mais l'œuvre on a même, elle est assez longue, elle fait plus sur ce passage une vingtaine de minutes à peu près d'interprétation, et on a ce thème répété de très très nombreuses fois. On l'entend dans des leaders aussi qu'il a écrit, on l'entend dans plusieurs endroits de sa vie, dans plusieurs moments de sa vie, et donc c'est un thème qu'il a mis très 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 longtemps à élaborer et à vraiment rendre dans sa forme définitive. Il a mis très longtemps à nous le présenter. Vous avez vu la manière, le spectacle qu'il a mis en place, la narration orchestrale qu'il a mis en place pour nous le présenter. Ce qui va se passer par la suite, alors que les chœurs et l'orchestre sont arrivés, c'est qu'on va avoir en fait un dernier mouvement, donc le quatrième mouvement, quasiment en quatre mouvements, comme une symphonie dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on va avoir un allegro, qui est déjà composé par une première introduction par l'orchestre, celle qu'on vient d'entendre, une deuxième introduction par les solistes et le chœur. On va entendre un petit extrait, elle est assez connue évidemment. Une deuxième partie qui, elle, correspond au scherzo, c'est la partie dans laquelle on a Beethoven qui écrit à la marcha, comme à la turque. Hein, vous savez, c'est, à l'époque, on a encore cette mode des turqueries où on cherche à imiter orchestralement les orchestres de janissaires, hein, les soldats turcs. On a ça dans la symphonie numéro 100 de Haydn, la symphonie dite militaire, elle est assez connue, où on a justement le moment où Beethoven utilise son triangle, ses cymbales, sa grosse caisse, hein, qui donne cet aspect assez martial, assez militaire, et donc cet aspect très 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 rythmique qui est le scherzo, qui correspond parfaitement au deuxième mouvement de sa symphonie. On a un troisième mouvement qui est un adagio, qui est extrêmement tendre, et celui-là très 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 religieux, qui va tourner autour de la strophe 5, hein, du texte de Schiller, et celui-là dans lequel on a un autre thème qui est introduit, d'ailleurs un thème qui n'est pas le thème de l'hymne à la joie, c'est le seul moment où on a un nouveau thème qui est introduit. Et puis un dernier passage, un dernier mouvement qui est très vif, et celui-là qui va présenter dans son début. Nous, on va écouter le début de celui-là et le début de celui-là pour terminer mon intervention. Qui est, celui-là est écrit en double fugue. Une double fugue avec deux thèmes superposés, le thème de l'hymne et le thème de l'adagio, qu'on vient d'entendre ici, qui est répondu par deux lignes, en fait, à nouveau avec le thème de l'hymne et le thème de l'adagio. Donc une double fugue, quelque chose qui est très très difficile à écrire et qui là devient, qui sublime véritablement le thème. Ce qui se passe, en fait, c'est que Beethoven, on dit souvent que c'est un thème et variation, c'est-à-dire que cet hymne, ce thème qu'on vient d'entendre, est varié de très très nombreuses fois durant cette symphonie, mais il est plus que varié, en fait, il est sublimé, c'est-à-dire qu'il est vraiment, vraiment présenté comme un hymne, et c'est pas du tout étonnant, je vous le dis encore une fois, qu'on le retrouve utilisé par autant d'idéologies différentes, par autant de personnes différentes, qu'on le retrouve vendu, par exemple, en 89, avec des CD qui présente un morceau du mur de Berlin. Vous voyez, on a eu ça aussi en 89, qu'on le retrouve dans Orange Mécanique, qui est un film absolument génial de Stanley Kubrick, et qui montre l'ultra-violence qui peut se développer autour de Beethoven, parce qu'on en a eu de l'ultra-violence, autour de, comme autour de Wagner d'ailleurs, autour des thématiques qui n'étaient absolument pas ces thématiques qu'il défendait. C'est, voilà, dans Orange Mécanique, on l'entend jouer au synthétiseur, on l'entend transformer, on l'entend utiliser pour l'État qui essaye de transformer un jeune homme ultra-violent par l'ultra-violence. Donc c'est assez particulier, c'est un film qui a défrayé la chronique, mais on entend aussi cet hymne-là. Pourquoi on l'entend aussi pour l'Europe? Pourquoi on l'entend pour tellement de choses? Parce que Beethoven a tout fait, et vous l'avez entendu très clairement cette introduction orchestrale, pour que ce soit un hymne, pour que ce soit vraiment quelque chose qui rassemble très nombreuses valeurs et qui puisse même devenir un hymne d'autre chose que ce pour quoi il était présenté. Donc nous, on va écouter juste le début de l'Allegro ici, le début de l'Adagio, le passage le plus religieux qui soit, dans lequel Beethoven utilise des unissons, des choses absolument magnifiques hein, pour donner cet aspect aussi, cette religiosité qui n'est pas sur le même thème, et puis juste le début de la double fugue pour terminer un petit peu cette présentation voilà, qui dure assez longtemps parce que la symphonie aussi est assez longue, hein, j'en conviens, ça c'est sûr. Voilà, donc le début... c'est pas celui-là, le tout début. Au moment où la voix arrive, ça débute exactement. Comme avec l'orchestre, sauf que là, le récitant est un baryton. C'est un reflet de l'introduction, hein, vous voyez, c'est exactement la même mélodie que jouaient les violoncelles. Avance cette écoute jusqu'à ce qui correspond normalement au scherzo, et on entend justement cette utilisation qui a été souvent, très souvent reprochée à Beethoven comme quelque chose d'un peu grotesque, d'un peu mal arrangé. Souvent les romantiques ont critiqué. Il est vrai que c'est très 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 difficile à diriger. Ce passage-là, il peut tomber un peu dans la parodie. Il est assez particulier, hein, avec ses percussions, son triangle, etc. C'est très difficile à diriger, et là il y a plein de chefs qui essaye différentes choses. Bon, là, la version de Karajan qu'on a réécouté, on est repassé à Karajan sur le quatrième mouvement. Il y a d'autres propositions. Évidemment, on m'a parlé de la version de Fürst Wengler de 51, qui est évidemment magnifique, absolument magnifique. Ça, j'en conviens tout à fait. Il y a d'autres essais, hein, bien sûr. On va juste écouter le début pour voir un peu en quoi ça correspond à cet aspect scherzo, cet aspect rythmique qu'on avait dans le deuxième mouvement. Vous allez voir, c'était assez éloquent, évidemment. Le voici. Il y a un silence entre chaque section.
Et là, c'est la quatrième strophe qui est traitée. Les trois premières dans la première partie. Scherzo, ça correspond à un deuxième mouvement en fait, dans l'ordre qu'a choisi Beethoven, et on va écouter l'adagio, le début de l'adagio. Là, il y a un passage extrêmement intéressant, c'est que c'est un nouveau thème, c'est pas le thème de l'hymne, hein, c'est un nouveau thème qui arrive aussi, qui fait un peu le contrepoint, et c'est le passage le plus religieux qui se trouve dans ce, le plus spirituel qui se trouve dans ce dernier mouvement. En fait, ce passage-là, donc, il va traiter de la cinquième strophe, puis de la sixième strophe. 2, 3, 4, 5. Donc, le millier d'êtres, embrassez-vous, que ce baiser aille au monde entier, frère, au-dessus du firmament, doit séjourner un bon père. Puis la sixième, millions d'êtres, vous tombez, au monde, devines-tu le Créateur, cherche-le au-dessus du firmament, au-dessus des étoiles et de son séjour. Oui, et son séjour, pardon. Au-dessus des étoiles est son séjour. Et ce qui se passe, c'est que Beethoven avait normalement, il l'a dit, il l'a écrit, hein, supprimé toute religiosité de ce mouvement, sauf sur ce passage-là. Et c'est très clairement donné par l'unisson des voix dès le début et la présence d'un nouveau thème très 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 mélodique qui apparaît donc à ce moment-là, je vais vous trouver ici. Si ça veut bien y aller. Voilà. Ce passage qu'on pourrait s'en trouver assez étonnant, pourquoi est-ce que dans un hymne, hein, quelque chose qui nous redonne tout au long d'un mouvement qui est très très long, il se permet, on va dire, une sorte d'entorse, un arrêt, une interruption sur un autre thème, sur quelque chose de nouveau qui apparaît mieux, c'est parce qu'en fait ce deuxième thème va sublimer le dernier retour, la dernière section avec cette double fugue où il va être mélangé, lu, chanté en même temps que le thème de l'hymne dès le début
et avec une deuxième paire de voix, une deuxième paire de lignes mélodiques qui entrent. Donc vous avez ici le thème de la joie, et ici le thème B, hein, qui se répond aussi avec thème A, thème B sur la deuxième partie de la fugue. Vous allez avoir ça dans la dernière section qui est le vif, qui correspond vraiment au quatrième mouvement d'une symphonie, hein, si vous voulez, qui correspond vraiment au final éclatant, qui sublime vraiment l'hymne dans sa totalité. Donc je vais vous faire écouter juste ce passage-là, qui se trouve ici. J'avais bien fait de noter les mouvements. Alors, par là, ici. Là, voilà cette double fugue. Dernière arrivée de ce thème qui va être là véritablement sublimé. Voilà, je pense vous avoir donné les moments importants pour vous repérer, hein, dans ce mouvement-là. Vous avez compris pourquoi il est si long. C'est parce qu'en fait, outre l'introduction orchestrale qui est absolument géniale, vous avez compris pourquoi. C'est la première fois qu'on a un orchestre qui parle de la musique à ce point-là. Il parle de lui-même, il parle de ce qu'il a exposé, il parle du débat en cours, il parle finalement de ce qui va arriver. Et donc, outre cette introduction qui est très très longue, le premier chœur, en fait, on aurait pu presque imaginer s'en arrêter là dans l'absolu, hein, c'est-à-dire exposer voilà, les chœurs, les solistes, hein, comme c'est fait d'une manière gigantesque, hein, c'est déjà presque, ça aurait pu être une fin en soi. Et bien Beethoven, au-delà de ça, propose quasiment une deuxième symphonie à l'intérieur de la première, hein, avec les quatre mouvements, le premier, deuxième, troisième, quatrième, qui se suivent et qui donnent à chaque fois un nouvel état, une nouvelle sublimation de cette ligne. Voilà. Donc évidemment, ça ouvre des possibilités orchestrales énorme, nouvelle pour le 19e siècle. Ça intéressera profondément de nombreux compositeurs. Je pense à Berlioz, évidemment, hein, qui a été un des grands orchestrateurs du 19e siècle, mais aussi évidemment Wagner dans le domaine de l'opéra. Et vous avez compris, je pense, pourquoi ça peut l'intéresser à ce point-là, au travers de ce que j'ai cherché à vous présenter. Là, je vous remercie de votre attention et voilà. J'espère pas avoir été trop confus, enfin que c'était un peu plus clair, ouais.
Oui, je le disais tout à l'heure qu'on connaissait tous la 9e symphonie. C'est peut-être maintenant qu'on s'aperçoit qu'on la connaissait peut-être pas aussi bien que ça. Et je crois qu'on la connaît, ça, on l'appréciera beaucoup plus maintenant.
On la connaît jamais assez.
On la connaît jamais assez, c'est ça. Mais on la connaîtra déjà un peu mieux, et même beaucoup mieux, après cet exposé passionné et didactique en même temps que vous nous avez donc exposé. Je crois que c'était bon. Et donc, par la version de Kurt Wengler qu'on entend très souvent.
Ouais. Est-ce que, le 51 de
Wengler. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier?
Déjà, elle a un poids symbolique. Je parlais du poids symbolique de l'histoire, de la, d'utilisation de la symphonie. Là, vous savez pourquoi elle est utilisée. Donc, évidemment, c'est une réponse à quelque chose d'horrible qui a pu se passer avant. Mais au-delà de ça, elles ont toutes leur intérêt. Elles ont toutes quelque chose qui peut être apporté. Qu'est-ce qu'il y a de tellement intéressant dans cette version? Déjà, elle est jouée en concert. Ça, c'est quelque chose qui change tout. Kurt Wengler adorait les enregistrements en live. Donc ça, c'est, ça change beaucoup dans l'intensité, dans l'émotion qui est suscitée. Il y a des puissances autres qui sont données au coup de timbale, au passage justement très surprenant, au retour. Vous voyez, dans le premier thème, où on avait la réexposition avec le premier thème sur un tapis de timbales. Là, quand on écoute le tapis de timbales chez Kurt Wengler, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Dans les intensités sonores, dans la dynamique, dans tout cet aspect-là. Le coup de timbale à vide aussi est très, très, très puissant. Je trouve qu'il est pas mal chez Harnoncourt aussi. Moi, je trouve, c'est pour ça que j'ai fait entendre Harnoncourt. Mais il y a des choses comme ça. Mais après, chaque version peut être bonne. Vous pensez à quoi, en fait, quand vous me demandez?
Non. C'est-à-dire, ça, il y a eu un aspect, si vous voulez, qui est un peu particulier parce que l'ouverture du. Et la réouverture.
Évidemment, plutôt, elle a été faite sur le 9e.
Sur la 9e symphonie par Kurt Wengler.
Qu'est-ce que dit Schiller, enfin, que l'harmonie, la paix des hommes, etc., ouais, se retrouvera dans la beauté de l'art. Et le fait que les nazis aient utilisé ça pour leur idéologie, c'est quand même déjà assez incroyable, mais bon, ça a pu marcher. C'est reprendre. C'est tenter de réapproprier, enfin, réinvestir le véritable sens de l'œuvre au travers d'un symbole qui est la réouverture de Bayreuth. Hein, ouais. Donc retrouver cette paix, retrouver cette harmonie au travers de l'art.
Voilà.
Mais ce que les nazis pensaient aussi, hein, c'est ça qui est terrible, hein, c'est qu'on peut utiliser à d'autres comptes la réflexion de Stanley Kubrick dans L'Orange Mécanique, on aime ou on n'aime pas, c'est autre chose, mais dans ce film, elle est parfaitement en adéquation avec ce genre de réflexion. On voit que le héros, qui est un jeune ultra-violent, utilise Beethoven pour l'ultra-violence, et que l'État, quand il va essayer de le faire rentrer dans le rang, de manière mécanique, en lui donnant de la nausée sur des images de violence, hein, avec des médicaments, des choses atroces, lui mettre de la musique de Beethoven, jouée au synthétiseur, d'ailleurs c'est tout complètement déformé, mais Beethoven, on voit très bien à quel point il peut être utilisé dans d'autres fins. Ouais. Et finalement, on voit très bien à quel point cette vieille maxime populaire qui dit « la musique adoucit les mœurs », c'est totalement fausse, en fait. C'est pas vrai.
On peut l'exacerber dans certains cas.
Voilà, c'est absolument pas vrai, là, ouais. On le voit. Ouais. Donc voilà, en tout cas, ça pose une réflexion très intéressante, hein, cette version de Kurt Wengler, et évidemment, sur la réflexion de ce que peut être une œuvre, de comment peut changer son discours, comment on peut changer son... Parce que je dirais même que quand on l'a joué aux funérailles de Beethoven, elle avait déjà un autre sens. Voilà. C'était un adieu à un artiste, c'était un adieu... Donc voilà. Elle change de sens. Et là, on rejoint un peu Umberto Eco, vous voyez, qui écrit Les limites de l'interprétation dans les années 60, et qui dit qu'il y a trois sens, en fait, qui se cohabitent tout le temps. Intentio operis, l'intention de l'œuvre, le sens de l'œuvre en elle-même qu'elle imprime et qu'elle garde d'un but à l'autre de son existence, le sens, l'intention de l'auteur, intentio operis, qui veut donner quelque chose à son œuvre, mais qui n'est pas le même sens que l'œuvre d'ailleurs, hein, qui lui échappe totalement, et l'intention du lecteur, intentio lectoris, c'est que les bulles, le sens se fait au travers de la confrontation de ces trois bulles et change constamment. C'est Umberto Eco qui dit ça, vous savez, l'auteur du Nom de la Rose et puis d'autres choses comme ça, mais il travaille là-dessus. C'est un peu la philosophie de l'herméneutique, c'est Heidegger aussi qui parle de ça, Gadamer, enfin toute cette histoire du sens qui change, le sens étant l'advenir, c'est ce que dit Gadamer. Et il changera tout le temps, il n'y aura pas un sens donné de la 9e symphonie. Là j'ai cherché à vous montrer comment Beethoven a essayé de structurer son écriture pour aller en adéquation avec la manière dont il comprenait le texte de Schiller, mais c'est pas pour ça que c'est le sens que fait, que qu'opère l'œuvre en vous, ça c'est certain, en chacun de nous d'ailleurs. C'est pas celui-là, c'est peut-être autre chose.
Je voulais vous poser une question qui n'est pas vraiment musicale, mais est-ce qu'on sait si Goethe a entendu la 9e, puisque c'était le grand ami de Schiller?
Je n'en suis pas sûr. Je ne saurais pas m'avancer là-dessus. Entre Goethe et Beethoven, ça n'a jamais trop marché. Hein. Il y a eu des essais, tout ça. Donc je ne suis absolument pas sûr que Goethe l'ait entendu et même ait voulu l'entendre. Voilà. Je ne suis pas sûr. Mais à vérifier, parce que je ne suis pas spécialiste non plus de ces domaines-là.
Il n'avait pas les disques à l'époque.
Non, mais ça a été joué à Leipzig. En 1825, à Leipzig, ça connaît un énorme succès en Allemagne à plusieurs endroits. Donc, au-delà de Beethoven, au-delà de Vienne, ça a circulé. Hein, ça a circulé. C'est ça. Et Beethoven en 27.
En 27.
Ouais.
Et le fait que ce soit devenu l'hymne européen, c'est...
Voilà.
Je trouve ça magnifique.
Bah, oui, mais en fait, ce n'est pas non plus le message de la symphonie, en vrai. Et de la même manière, quand on a vendu la symphonie avec un bout du mur de Berlin en 89, on a eu de mettre une Freiheit, Ode à la joie, on a dit Freiheit, Ode à la liberté. On avait changé les paroles, donc on a changé de temps en temps, vous voyez. Voilà.
Ode à la joie, bien la paix, à la liberté.
Ouais. Et le texte de Schiller non plus n'est pas respecté par Beethoven, puisqu'il a été tronqué, découpé, tout ça. Enfin, voilà, c'est toujours la réflexion qu'on peut avoir sur toute œuvre d'art. Il n'y a pas un sens, ça c'est certain. Il n'y a pas un sens. Malheureusement, il y en a plein. Malheureusement, on peut dire parce qu'on connaît l'histoire un peu pour ça. Quoi. Ouais.
Jean-Claude, tu as des versions préférées, toi, qui te connais?
Wengler. Pour moi, il y a Claude
Wengler.
Loin derrière les autres.
Oui.
Chez Von Wengler, il y a une émotion qui passe qu'on ne trouve pas. Oui. La version d'Armancourt, là, me laisse complètement froid.
Ah oui, on s'endort.
Me laisse complètement froid.
Ah, je l'ai mise pour que vous découvriez un petit peu. Hein. C'est pas non plus ma préférée. Il y a des choses que je trouve intéressantes quand même. Il y a
un souffle chez Von Wengler qu'on ne retrouve pas chez les autres.
Ah, mais
particulier le début du troisième mouvement.
C'est sûr que mettre une petite version de Harnoncourt, un petit bout de Harnoncourt chez des amateurs, grands amateurs que vous êtes de Wagner, c'était un petit peu osé. J'en conviens, hein. Je savais. je savais bien.
Voilà. Et monsieur, vous n'aimez pas celle de Toscanini aussi?
Non,
il y a débat là-dessus.
Harnoncourt, le début du troisième mouvement, les quelques notes avant le thème, pour moi, c'est trop rapide. Quelques notes qui débutent chez Von Wengler, il y a quelque chose, on attend et puis ça arrive.
Oui.
Chez Harmoncourt, on attend, il n'y a rien.
Je vois. Bon, on a pas parlé de version, évidemment, on n'a pas parlé de tout ça, on a parlé vraiment de musique, donc on pouvait prendre n'importe quel support, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Assez d'accord. Ouais, bien sûr. Ouais.
Pour moi, Von Wengler, la 7e symphonie de Beethoven, je trouvais aussi. J'ai jamais trouvé autre chose que Von Wengler, qui m'est satisfait particulièrement, dans la 7e symphonie particulièrement.
C'est la race allemande des chanteurs, c'est
vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, on se demande, avec des gens qui chantent si bien, les monstruosités qu'ils ont pu faire. Moi, ça m'a toujours dépassé.
Oui, ben oui, mais ça, c'est.
C'est valable chez n'importe quel.
Quand on entend les chœurs de Bayreuth, on se demande comment on a pu arriver à cette monstruosité.
Mais vous avez bien joué cette musique.
Mais bien sûr, oui.
Avant les exécutions.
Bon, quelqu'un a d'autres.
Merci.
On va donc lever la séance. Je l'ai déjà dit les autres fois, mais souvent on prolonge un petit peu la séance en prenant un pont dans le hall de l'Hôtel de France.